Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object.
Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
Et je suis Colin.
Je vous parle de crime.
Et je fais mon possible.
Hello!
Bonsoir, Jennifer.
Comment ça va?
Ça va très, très, très bien.
Merci à tous ceux qui m'avaient suggéré Fay Farm à un moment donné.
Mm.
C'est mon petit jeu.
Finalement, tu rends le crédit où il est dû pour les chers sombreux qui ont suggéré Fay Farm.
Ah non, je capote. C'est parce que, tu sais, ça fait peut-être quoi, 5 mois, 4 mois que j'ai demandé ça, puis j'ai pas eu le temps de jouer finalement. Puis récemment, ben j'ai des épisodes dans magasiné. J'ai Michel qui m'aide beaucoup. Fait que, en tout cas, j'ai plus de temps pour moi, ce que j'adore. Fait que là, j'ai finalement acheté Fay Farm. Puis je capote parce que c'est comme un mélange de beaucoup d'Animal Crossing, un petit peu de Minecraft, un mini peu de Diablo. Parce qu'il faut quand même que je tue des petites bibittes dans des mines. Mais c'est pas... J'aime ça. Je fais des petites recettes, je fais du jardinage, je m'occupe de mes petites poules. Ouais, j'aime ça. Merci à ceux qui me l'ont suggéré. Je suis super énervée pour l'histoire de ce soir, Colin, parce que tu me connais, je fais beaucoup de cas hyper récents. T'sais, 2024, 2023, dans les années 2000, beaucoup, mais même des fois que ça fait juste quelques mois que le meurtre est arrivé. T'sais. Puis c'est ça qui me passionne le plus. Mais quand j'ai entendu cette histoire-là, j'avais écouté, ça fait un petit bout, là, quelques mois, Murder with My Husband. Puis j'ai entendu cette histoire-là, puis j'étais comme, man, c'est fucked up. Puis ça s'est passé au début des années 1900, genre juste après la Première Guerre mondiale.
Really?
Ouais. Fait que on va reculer dans le temps aujourd'hui ensemble.
Wow, OK. Ça, c'est vraiment cool. J'aime bien ça.
J'ai mon petit rosé sec. Je suis prête. Mais toi, t'es-tu prêt?
Pas tout.
Prêt, pas prêt?
Non.
J'y vais. L'histoire d'aujourd'hui en est une très vieille qui se déroule à Milwaukee, au Wisconsin.
Oh, douce Milwaukee.
D'accord. On a déjà parlé de cette ville-là qui est devenue, d'ailleurs, le théâtre de l'histoire crève-cœur de Shadé Robinson, plus tôt cette année qu'on en a parlé. Là. Elle qui est allée dans une date Tinder puis qui s'est fait démembrer.
Yep. Wesh.
Ouais. C'est vraiment pas la première fois qu'on va là. Mais comme notre cas a eu lieu au début des années 1900, on va quand même faire une petite description d'à quoi ressemblait la ville à cette époque-là, car elle a beaucoup changé depuis. J'ai pas de statistiques Neighborhood Scout parce que ça s'est passé dans les années 1900, fait que ça a comme pas rapport en ce moment. Bon, le territoire du Wisconsin a été officiellement créé en 1836 à la suite de nombreux affrontements qui ont permis aux États-Unis de prendre leur forme actuelle et au terme de plusieurs guerres contre les peuples autochtones, genre les Blackhawks, entre autres. Non, c'est pas juste une équipe de hockey.
Let's go Chicago!
Alors, on y a vu défiler des groupes de prospecteurs, de cultivateurs et des missionnaires. Puis, la révolution industrielle a permis à des manufactures, des scieries et d'autres lieux de production de masse de s'installer au Wisconsin, faisant de Milwaukee un pôle industriel important dans l'État. Vers 1850, la première université voit le jour à Milwaukee, dans la foulée de l'apparition des chemins de fer et de l'arrivée massive d'immigrants issus des pays d'Europe de l'Est qui iront travailler dans les usines et les fermes. C'est dans cette période d'intense mouvement de population qu'une famille quitte l'Allemagne pour se rendre à Milwaukee entre la fin des années 1870 et le début des années 1880. Une fois arrivés aux États-Unis, les parents ont commencé à travailler comme ouvriers dans les manufactures et se sont rapidement joints à la diaspora allemande. À cette époque, on voit très souvent d'immenses communautés de migrants qui se rassemblent selon leur pays d'origine ou leur appartenance religieuse dans des quartiers ou des secteurs des villes. C'est un processus qui s'appelle la ghettoisation, puis qui est tout à fait naturel et humain, OK? Quand le groupe social dominant est très fort et solide, ceux qui ne correspondent pas aux critères dominants ont tendance à se rassembler avec d'autres personnes qui partagent leurs valeurs, leur langue, leur religion, etc. Ça permet aux personnes issues de communautés marginales de s'entraider et de s'assurer que leurs besoins et valeurs seront respectés. On voit ça encore, mettons, quartier gay à Montréal, les quartiers chinois dans plein de grandes villes, les quartiers hispanophones, l'arrondissement d'Outremont où il y a une grande communauté juive, tu sais, les gens se rassemblent ensemble, c'est naturel. Et ça...
C'est comme... C'est weird, parce que c'est comme auto-ségrégation.
Bien, plus maintenant, tu sais, peut-être avant, mais en même temps, c'est parce que avant... Mais avant, il y avait beaucoup de racisme, il y avait beaucoup de... Mm-hmm. Tu sais, c'est ça.
Mais j'ai vu un pub pour le STM sur un autobus. Ceux qui ressemblent, rassemblent.
Ceux qui se ressemblent, s'assemblent?
Yeah.
Ouais.
I was like... That's kind of fucked up.
C'est un dicton qu'on dit beaucoup en français, là.
Really?
Ouais. Tout ce que je viens de vous dire sur le processus de la ghettoisation, ça fait partie de la minute sociologique faite par Michel, parce que c'est elle qui a écrit ce texte-là. Michel, on aime tellement tes minutes sociologiques. Puis là, elle m'a mis une note dans son texte en disant « Je comprends tout à fait si tu le skips, cette partie-là. Là, c'était juste la prof de sociologie en elle, je pense, qui pouvait pas pas le dire, mais en même temps, c'est tellement pertinent. Alors, on adore toutes tes minutes sociologiques. Michel, continue. Alors, on va revenir à notre histoire. Juste avant de quitter l'Empire germanique ou au moment de leur arrivée à Milwaukee, leur fille, Walburg... Là, je m'excuse, OK? Je vais massacrer ce nom-là. OK. Je veux juste vous dire, dans le fond, te dire, Colin, qu'on l'appelait Dolly, finalement.
Dolly?
Ouais, je suis pas capable de lire son premier nom. Son vrai nom, puis de toute manière, tout le long, elle va s'appeler Dolly. La famille habite dans une communauté tissée serrée composée d'immigrants allemands. Puis Dolly, c'est une petite fille intelligente, est très vive d'esprit, puis elle sait user de charme pour obtenir ce qu'elle veut. Puis ça va perdurer dans sa vie. Ouais. Puis je sais que ça peut sonner un petit peu dégueu parce que c'est un enfant puis c'est une adolescente, mais... Toutes les sources que Michel a lues décrivaient Dolly comme une jeune fille charmante et séductrice. Mais dans ce temps-là, les femmes se mariaient les filles se mariaient à 12-13 ans. Fait que, c'est pas le 1920, gang. 1920. OK? C'est pas le même monde.
Yeah, OK.
Mais bon. À l'âge de 12 ans, elle commence à travailler dans une usine textile, comme bien des jeunes filles de son temps, parce que les enfants commencent à travailler à 12 ans. C'est fou pareil. Hein?
12 ans dans une usine.
Ben oui.
That's crazy. Mais, tu sais, comme... Est-ce que c'est... Je pense que c'est vrai que dans ce temps-là, si t'avais comme 50 ans, tout le monde est comme, yo, t'es vieux.
Ben... Fait que je retourne à nos moutons. C'est important de garder en tête qu'à cette époque-là, les personnes qui habitaient en ville vivaient dans des conditions vraiment difficiles. C'était le début des rassemblements urbains et les villes étaient vraiment très densément peuplées. Pour te donner un exemple, la ville de Milwaukee comptait 20 061 habitants en 1850, alors qu'en 1890, c'était 204 468. Ça donne des développements immobiliers chaotiques. OK? Puis ça, à Montréal, on l'a vécu aussi, là, dans le sens que tout était construit en bois à un moment donné, mais tout collé. Fait que quand quelque chose pognait en feu, tout pognait en feu, tu sais. Mm-hmm. C'était dégueulasse.
Oh, yeah. C'est comme
ceux qui ont construit des dominos, en briques, là. Finalement. Oh, ouais. Fait que c'est ça. Ça donne des développements immobiliers chaotiques, d'immenses familles qui habitent des minuscules appartements et les longues journées de travail épuisent la population qui n'a plus le temps de faire à manger, coûte ses vêtements, puis se changer les idées. Puis, tu sais, c'est ça. Là, c'était le lavage à la main dans ce temps-là. Il n'y avait pas de laveuse. Là, fait que quand il fallait que tu laves ton linge pour tes 10 enfants, c'était tordre le tout faire ça. En tout cas.
Puis il n'y avait pas de couche jetable dans ce temps-là. Il fallait fucking laver la merde avec tes propres mains. Là. Ouh là là! Pas de lave-vaisselle. Pas de lave-vêtements. Pas de lavage sécheuse. Mais
c'était que les gens étaient forts.
I mean.
Il n'y avait pas le temps, ouais.
Oh! Oh!
Bon, fait que ces gens-là doivent consommer des biens transformés par d'autres pour subvenir à leurs besoins, alors les besoins en argent s'accroissent. Tout le monde doit donc travailler pour assurer que tout le monde manque de rien. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que Dolly, elle a 12 ans, puis elle travaille dans une usine de textile. Puis Dolly, elle travaille dans une usine qui appartient à un autre ressortissant allemand qui a l'habitude d'employer des immigrants de son pays dans un élan de solidarité. Rapidement, la jeune fille ultra sociable qui a une grande influence auprès des employés de l'usine attire l'attention de Fred William Oesterreich. Lui, c'est le propriétaire des lieux. Fait que en 1897, alors que Dolly est âgée de 17 ans et Fred, le propriétaire de l'usine, il a juste 20 ans, puis c'est un fucking propriétaire d'usine parce qu'il travaille là depuis que quoi, 10 ans, tu sais.
C'est ça l'affaire. Ton carrière commence assez jeune. Il y a déjà 10 ans d'expérience.
Fait que les deux se marient, puis la jeune Madame Oesterreich grimpe rapidement l'échelle sociale. Elle reste très impliquée dans l'usine de son mari. Elle intervient fréquemment là, pour l'aider, mettons, dans les relations humaines, parce que on s'entend que dans ce temps-là, il y avait beaucoup les esprits qui s'échauffaient, des chicanes, puis tout ça, puis elle était là pour calmer le tout. Puis son mari, c'est un bon employeur, mais c'est un gars de 20 ans dans les années 1800. Il est froid, il est distant, puis elle, ben, elle apporte sa petite touche féminine. Là, dans cette époque-là, du moins, on était sensible puis aimable, parce que c'est bien connu, hein, les gars peuvent pas être sensibles et aimables, en tout cas pas en 1897. Fait que dès le début du mariage des Oesterreich, les rumeurs vont bon train. Tout le monde se dit « Comment une aussi belle ouvrière a-t-elle pu être attirée par le riche, mais pas très beau Fred? » Comme je disais, dans le fond, pourquoi elle est attirée par ce gars-là? Il est riche, mais il est loin d'être beau. Fait que dans ce temps-là, of course, c'est tout ce qui est important. Là. Fait qu'on lui attribue de nombreux amants. T'sais, dans le fond, on dit cette fille-là qu'elle trompe son mari, c'est sûr. On parle d'elle comme une femme insatiable qui accueille ses amants pendant la journée quand son mari est absent. Ils ont un enfant ensemble. Mais l'enfant est décédé à l'âge de 10 ans. Je sais pas pourquoi, mais moi, on dit que c'est triste.
10 ans?
Ouais. Puis on dit que Dolly là, est jamais redevenue elle-même après la mort de son enfant. Je pense que personne qui peut redevenir... C'est ça, non? Fait que les deux travaillent encore à l'usine. Dolly intervient encore très régulièrement. Et puis quand elle est âgée de 33 ans... Elle rencontre un réparateur de machines à coudre nouvellement embauché à l'usine. Ce gars-là s'appelle Otto.
Otto.
Sanhuber. Puis Otto.
Otto.
Mais je vais dire Otto. Il a 17 ans. Elle en a 33.
17? Puis...
33. Un jour, Dolly demande à Otto de passer à la maison parce que elle avait vraiment besoin de faire réparer sa machine à coudre brisée.
OK. Sass.
Spoiler alert, la machine à coudre fonctionnait très bien. Fait que les deux couchent ensemble, puis leur relation devient très rapidement vraiment intense. Mais à 17 ans, dans ce temps-là, c'est vraiment fucked up, mais c'est une autre époque, hein.
I mean, check tous les profs qui couchent avec leurs étudiants de comme 17, 16 ans.
Je peux pas. Pars-moi pas là-dessus.
Ça, c'est fucked up, man.
Aux États-Unis, ça arrive. Ça arrive au Québec aussi, ça arrive au Canada aussi, mais aux États-Unis, ça arrive tellement souvent. Puis souvent, beaucoup de fois, c'est des femmes qui couchent avec des enfants de 17 ans. Puis, les amants salaces doivent trouver une manière de se voir sans alimenter les potins des voisins. Tu sais, les gens sont pas rivés sur un écran à cette époque-là. Donc, regarder les voisins, c'est chose du quotidien. Donc, les hôtels miteux, les chambres dégueux, ça fait son temps. À un moment donné, ils sont écœurés de coucher là. Fait que Otto vient de plus en plus souvent à la maison des Oesterreich quand Fred est absent. Au début, Dolly présente le jeune Otto à ses voisins comme son demi-frère vagabond qu'il aide une fois de temps en temps. Mais là, ce que je trouve drôle, c'est que qui a dit ça à... ses voisins, mais son mari, comme t'as pas de frère vagabond, en tout cas. Elle espère que son mari parle pas aux voisins, j'imagine.
Elle était pas trop créative dans sa histoire, OK.
Fait que là, c'est pas assez pour elle juste qu'il vienne de temps en temps. Elle l'a vu près d'elle tout le temps. Puis pas question qu'elle quitte son mari, là. T'sais, elle perdrait tout son standing, elle perdrait toute sa maison. Fait que sais-tu qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution?
Quelque chose qui est ridicule, I don't know.
Ouais, Otto va déménager en cachette dans le grenier de Dolly et Fred Osterak.
Assez surprenant. OK.
Fait que la nuit, Otto dormait au-dessus de la chambre de Dolly, puis des fois, il entendait même Dolly puis son mari faire l'amour, genre.
Oh, des choses, hein?
Le jour, quand Fred, le mari, part travailler, ben Otto sort du grenier, il vit sa vie avec Dolly, il agit comme son mari, il fait l'entretien de la maison, il fait le ménage, il couche avec sa femme, puis vraiment, ben avec sa femme, excuse-moi, avec Dolly, puis genre, vraiment beaucoup de sexe. Puis quand Fred revient après ses journées de travail, il retourne... Ben, en fait, Otto retourne en cachette dans le grenier, puis il passe par le plafond de la garde-robe de la chambre de Dolly. C'est vraiment... Oh, ouais. Dolly a fourni à Otto de la nourriture, un lit, un bureau, des chandelles, puis le nécessaire pour écrire, parce que la nuit, il faut qu'il soit silencieux. Puis Otto, il écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles de science-fiction, okay? Puis il en publie même.
Ah, ouais.
Il écrit ça, puis Dolly, de temps en temps, elle les réécrivait à la machine. Quand ça lui tentait, elle les réécrivait à la machine à écrire. Puis.
A typewriter?
Ouais. Mm. Puis pendant ces années de captivité consentante, il devait. Il couchait avec Dolly, genre, 8 fois par jour.
Huit fois par jour?
C'est-tu possible qu'elle ait un problème à ce moment?
Ça va mal. Après un moment donné.
Aux deux, ça va vraiment. Plus tard, il va décrire Otto cette captivité consentante. Là. Il va décrire ça comme esclavage sexuel.
Ouais. Ça fait du sens, là. 8 fois par jour.
T'sais, il est entièrement à sa merci, mais le jeune homme, à cette époque-là, il n'est pas nécessairement conscient de la situation abusive dans laquelle il vit, parce que je te rappelle qu'il avait 17 ans quand il a commencé ça. Puis éventuellement, Dolly va poser un cadenas sur la porte du grenier. Elle va expliquer à son mari qu'elle veut conserver ses fourrures en sécurité. Elle veut être sûre que son mari n'ira pas fouiller dans le grenier, mais elle veut aussi être sûre que Otto ne sorte pas sans qu'elle le sache.
Really?
Fait que tu sais, là, c'est... Je veux dire, c'était déjà malsain, mais là, le dude, il est enfermé dans un grenier aussi à cadenas, là. Un soir, Fred, il entend le son d'un homme qui se racle la gorge. Tu sais, il entend ça au-dessus de son plafond. Tu sais. Il est dans sa chambre, puis il entend ça. Puis il entend aussi le plancher du grenier qui craque. Puis il voit aussi des lueurs, des fois, à travers le plancher, parce qu'on s'entend que dans ce temps-là, les planchers, c'était juste, mettons, des lattes de bois, puis il craque, tu voyais à travers.
Il n'y avait pas de drywall dans ce temps-là.
Puis à chaque...
Gyprock. Je pense que c'est comme ça que tu dis ça en français.
Oui, sérieusement, moi, je sais rien là-dedans. J'ai appris c'était quoi du Tyvek avec tout le monde du groupe. Fait que Dolly réussit à chaque fois à le convaincre, son mari. C'est juste ton imagination, là. T'es trop sous, tu bois trop, là. Inquiète-toi pas.
Peux-tu imaginer, c'est comme en train de chiller chez vous, tard, la nuit, il y a une chandelle qui brûle. Puis tout à coup, quelque part en haut de toi, t'entends comme...
Puis tu le sais qu'il y a un grenier, c'est ça qui est fucked up.
Yeah, and you're like... The fuck was that? Somebody shit their pants in my grenier.
My grenier.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Boy, these apples are delicious.
And zesty? And sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Son mari, à un moment donné, il questionne Dolly. Il est comme, hey, il y avait plein de bouffe dans le frigo. Puis, ben, quand est-ce que le frigidaire a été inventé ici? Sorry, I gotta Google it. OK, c'est ça. Il y avait un frigo dans ce temps-là. Le réfrigérateur, ça a été inventé en 1876.
Okay. Mm-hmm.
Fait qu'il y avait plein de bouffe dans la maison, dans le frigo, qui ont probablement, parce qu'ils ont quand même de l'argent. Puis, il est comme, comment ça se fait qu'il y a de la bouffe qui disparaît? Tu sais, on avait plein hier, puis là, il n'y en a plus. Puis, ah, c'est ça, Dolly, elle lui dit, ben, je mange en cachette, je donne la nourriture à des œuvres de bienfaisance. Ou c'est toi qui as tout mangé, t'étais trop saoul, tu t'en rappelles pas, tu sais. Mm-hmm. Étonnamment, malgré ces quelques fois où Fred aurait pu tout découvrir, parce que, tu sais, il y avait quelqu'un qui vivait au-dessus de lui, là, je veux dire, il me semble que ça, c'est facile s'en apercevoir, mais bon, il ignore complètement encore la présence d'Otto dans sa maison. Puis en 1910, les Osterhag doivent déménager à Los Angeles. Tantôt, j'avais dit que c'était un peu après la Première Guerre mondiale, mais on n'est pas encore rendu là. L'événement va arriver un peu après la Première Guerre mondiale. Fait qu'en 1910, qui n'est même pas encore la Première Guerre, les Osterhag doivent déménager à Los Angeles pour la carrière de Fred. Dolly,
really?
Ouais, Dolly négocie avec son mari de choisir elle-même la maison parce qu'elle veut absolument un grenier. Puis un grenier, c'est quelque chose de rare à cette époque-là. Genre, je te niaise pas, il va la suivre dans un autre grenier.
No way, Jennifer.
Otto déménage quelques semaines avant le couple, puis il s'établit dans son nouveau grenier. Puis par chance, entre guillemets, cette fois-ci, le grenier n'est pas directement au-dessus de la chambre des Osterhag. Fait qu'Otto, il va pas entendre sa blonde puis son mari fourré en dessous de lui. Puis Fred, ça j'ai vraiment ri quand j'ai vu que Michel avait écrit ça, Fred, il entendra plus des rats se racler la gorge ou tousser pendant la nuit. Comme si c'était des rats qui faisaient ça.
Genre. Yeah, right, eh? Like, damn, c'est un gros rat, ça.
Autant l'amour entre Otto et Dolly ne fait que grandir, autant le mariage de Fred et Dolly devient de plus en plus le bordel. Okay? Fred, il boit énormément, ce qui le rend soit vraiment déprimé et silencieux ou soit full agressif puis vraiment trop expressif. En 1913, le trio déménage encore. Là, je dis le trio, mais on s'entend que Fred, il n'y a aucune idée qui est un trio en ce moment.
My God.
Encore dans une maison avec un grenier, effectivement. Bon. Fred boit encore beaucoup. Dolly est encore beaucoup plus avec son amant. En 1918, Fred et Dolly sont à une soirée arrosée avec des amis allemands, puis il y a une chicane qui éclate entre les deux.
Ouh, oups, chicane publique.
Fred.
C'est pas cool.
Fred quitte la soirée sans sa femme. Il laisse sa femme au party. Puis quand il est arrivé à la maison, il ouvre la porte, puis il tombe nez à nez avec un homme maigre et blanc. Il est blanc comme une pinte de lait, là, en train de manger bien calmement un petit gigot d'agneau.
No way.
Puis quand Fred demande « Tu fais quoi, là? » Otto, qui est rendu à 32 ans, là, depuis qu'il a 17 ans, qui habite dans un grenier. Là.
That's crazy. He must look like Gollum.
Ouais. Fait qu'il a 32 ans, il est tout blanc, il est tout maigre, il répond « J'avais faim, monsieur. » Fait que là, Fred le fout à la porte, puis quelques jours plus tard, Otto et Dolly se voient, puis il est convaincu. Otto, il est comme « OK, toutes les nouvelles que j'ai publiées de science-fiction, là, je suis capable de te faire vivre, là, on déménage ensemble, OK, je vis plus dans ton grenier. » Mais bon, comme... Oublie ça, ça marchera pas. Elle fait revenir dans son petit grenier en cachette. Puis.
Il revient dans le grenier.
Il était libre, ouais. Mais le petit coco, ça fait depuis qu'il a 17 ans, là, qu'il.
Mais là.
Ouais, je sais pas. Il pense qu'elle va le laisser un moment donné, puis qu'il va vivre sa vie avec elle. C'est fucké, hein?
It's super fucké.
Puis, tu n'avais pas les ressources que tu as aujourd'hui, hein, dans les années 1800-1900, là, je veux dire. Dolly, elle travaille à convaincre son mari de déménager encore. Je suis pas trop sûre pourquoi, OK? Puis, le jour, Otto fait l'amour à Dolly, puis continue de s'occuper de maintenir la maison, faire la ménage. Puis, la nuit, il continue d'écrire ses nouvelles. Puis, que je te disais tantôt que Dolly, elle tape de temps en temps sur sa machine à écrire. Puis, Fred, il finit par racheter une manufacture. Puis... ils s'en vont. Puis le soleil de la Californie, puis la prohibition lui redonne la motivation de travailler. Fait que là, Fred, à un moment donné, il avait arrêté de travailler un petit peu, fait que c'était plus difficile. C'est pour ça que Otto, il avait passé... Dans le fond, tantôt, quand j'ai dit que Dolly, elle a réussi à le convaincre à retourner dans le grenier, ça a pris quelques jours. C'était pas tout de suite. OK? Le 22 août 1922, Dolly et Fred retournent à la maison après une soirée à l'extérieur encore. Ils ont sorti, ils ont bu, puis comme souvent, ils se chicanent. Puis c'est comme ça que Otto, il les entend arriver, puis ça lui donne le temps de retourner se cacher dans le grenier. Puis cette fois-là, quand ils entrent dans la maison, Otto, qui est dans le grenier, il entend un gros bruit sourd, puis Dolly a crié. Puis là, lui, il est convaincu que Fred est en train de battre l'amour de sa vie. Puis qu'il descend à toute vitesse, il prend deux fusils, puis Fred le voit. Puis quand Fred le voit... Tout de suite, il se dit genre, hey, c'est le dude qui mangeait un jugot d'agneau dans ma cuisine.
Fuck oui.
Puis Otto, ben, il tire dessus.
Oh no, Jennifer. Ouais. Ouh, mais ça, c'est une histoire vraiment fucked up, là.
Ouais.
I mean, les standards de fucked up à nos jours ont gracieusement comme descendu. C'est comme c'est plus calme maintenant. Mais dans ce temps-là, le monde était encore sauvage as fuck.
Ouais.
Puis des choses que, à nos jours, qui sont une très mauvaise idée, se faisaient dans ce temps-là. Puis sans répercussion.
Mm-hmm. Ils vont dire que c'est de la légitime défense vraiment plus tard, mais pour le moment, les deux paniquent puis décident de faire croire à un cambriolage qui a mal tourné, c'est ça. Fait que là, ils ont fait une petite mise en scène. Otto, il a mis Dolly, il a embarré Dolly dans un placard. Puis quand les policiers sont arrivés, parce que les voisins, ils ont appelé la police là, après avoir entendu les coups de feu, ils ont retrouvé Dolly dans le placard, le mari mort. Fait que là, les policiers, ils arrivent, ils trouvent quand même que Dolly est louche un petit peu. Puis elle a dit aux policiers qu'en presque 40 ans de mariage, elle et son mari se sont jamais chicanés. Jamais. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, c'est quand même fucké parce que, tu sais, les couples ont... Tout le monde a des malentendus, que ce soit super anodin ou des grosses chicanes. C'est impossible qu'après 40 ans de mariage, ça soit pas pogné, là. Fait que, bon, non seulement ils trouvent ça louche, mais... le portefeuille du défunt, là, de Fred, il était toujours sur lui. Puis la seule chose qui manquait dans la maison, c'était une montre sertie de diamants. Fait que les détectives, ils trouvent que l'histoire de Dolly est suspecte parce qu'ils sont comme, OK, c'est un cambriolage qui a mal tourné, mais ils n'ont rien volé à part une montre, tu sais. Mais bon, ils ont même beau faire tout ce qu'ils peuvent. Dolly a dit rien de plus, puis ils parviennent pas finalement à la faire avouer ni à démontrer son implication dans la mort de Fred, fait qu'ils doivent la laisser partir. Puis en plus aussi, les amis de Fred croient à l'hypothèse du cambriolage qui a pas fonctionné, parce que selon eux, Fred il était tellement apprécié que c'était impossible qu'il avait été victime d'un meurtre. Ça, c'est un peu une drôle de manière de penser aussi, là. Dolly, elle se fait passer pour la veuve et pleurer. Elle peut pas imaginer vivre dans la maison où son époux adoré est mort si violemment. Alors, elle décide de déménager dans une nouvelle maison avec un grenier. Puis ça, c'est fucked up parce que là, il est mort. Non, mais là, c'est fucked up. T'es comme, OK, ton mari est mort. T'as plus besoin de cacher Otto. Mais bon, elle veut une maison avec un grenier.
Peut-être elle espère de trouver un nouveau Otto.
Otto, il emménage dans sa nouvelle cachette. Même s'il n'a plus besoin de se cacher de Fred, ben il faut qu'il se cache parce que là, c'est ce que là, il l'a tué, mais quand même, il n'y a personne qui sait qui existait. Tu sais, c'est juste weird. Fait que Dolly, elle veut vite entendre et gérer le testament de son mari. Elle engage un avocat qui s'appelle Herman Shapiro. Puis ce gars-là... C'est un bon avocat, puis en plus, Dolly est super charismatique, elle est séductrice, puis elle commence tout de suite à le séduire.
Oh!
Pour remercier son avocat de ses services, elle lui donne une magnifique montre pour homme sertie de diamants. C'est la seule chose qui était supposément disparue lors du cambriolage qui a mal tourné, entre guillemets. Elle explique à son avocat que la montre a appartenu à son mari, puis qu'elle est certaine que son mari aurait souhaité qu'elle la lui donne pour avoir pris aussi bien soin d'elle.
Oh, really?
Quelques temps plus tard, elle commence à fréquenter un acteur à qui elle demande de se débarrasser des fusils qui ont servi à tuer son mari. Elle lui dit pas, tu sais, que c'est ça, mais elle dit, tu sais. elle utilise son champ, puis elle dit, ben, j'ai aucun rapport avec le meurtre de mon mari, mais tu sais, vu que j'ai deux fusils qui ressemblent vraiment aux fusils utilisés là, pour tuer mon mari, ben, je voudrais pas que les policiers les trouvent pour qu'ils m'accusent. Fait que peux-tu m'aider à m'en débarrasser, s'il te plaît? Bon. Éventuellement, le détective Herman Klein, en charge de l'enquête à ce moment-là sur la mort de Fred Oesterreich, il apprend que l'avocat Shapiro, qui a géré le testament de Fred pour Dolly, il apprend que ce gars-là se promène avec une montre sertie de diamants au bras. Il rencontre Shapiro, puis lui confirme que c'est Dolly qui lui a donné la montre pour parce qu'elle était reconnaissante finalement de son aide. Le détective saisit la montre, puis interroge Dolly à cet effet. Il cherche à savoir pourquoi la montre déclarée comme volée pendant le cambriolage ayant causé la mort de Fred se trouve au bras d'un avocat que Fred n'a pas connu. Puis là, soudainement, Dolly fait de l'amnésie, puis elle dit pas se souvenir d'avoir vu cette montre à aucun moment dans sa vie. L'inspecteur Klein est bien trop content d'avoir enfin trouvé de quoi faire payer Dolly pour la mort de son mari. Il visite toutes les bijouteries de luxe de Milwaukee jusqu'à ce qu'il trouve celle qui a vendu la montre à Fred Oesterreich. Puis bingo, après quelques jours, il trouve. Il retourne à LA pour arrêter Dolly, puis l'inculpe pour meurtre au premier degré.
Oh, tabarjac!
Au moment où son ami acteur prend connaissance de l'arrestation de Dolly, il panique, puis il contacte Klein pour lui expliquer ce qui s'est passé avec les fusils.
I mean, ça, c'était du fort travail de détective pour ce temps-là.
Ouais.
Ça, c'est vraiment cool.
Puis, ça fait que là, l'acteur panique, tu sais. Fait que... c'est ça, il contacte Klein, puis il explique, ben elle m'a donné des fusils, puis je les ai foutus là. Puis plus tard, il y a un ancien voisin du couple qui rapporte le deuxième fusil au policier. Malheureusement, les deux armes sont trop en mauvais état pour être utilisables en cour. Shapiro va visiter Dolly en prison. Elle ne sait pas que Shapiro a aidé les policiers à la coffrer. Elle lui demande une faveur très spéciale à Shapiro, parce que tu sais, elle ne sait pas là, que c'est de sa faute s'il est en prison. Elle dit, ben, tu peux-tu aller dans ma maison au deuxième étage, dans le garde-robe de la chambre? Tu peux-tu aller faire une grosse épicerie, cogner trois coups à une trappe située au plafond de cette pièce-là? Parce que là, elle est en prison, là, Otto, il fait comment pour manger? Fait qu'elle dit, il y a un homme qui va t'ouvrir la porte et prendre la nourriture.
What? Le actuel
fuck. Pour nourrir Jennifer. Otto. Otto qui est pris dans le grenier.
What the fuck, Jennifer?
Fait que même si Shapiro trouve ça pas mal étrange, il fait ce que Dolly lui demande. Puis quand la porte s'ouvre, c'est un Otto chétif qui est affamé. Il est même pas sorti aller chercher de la bouffe qui apparaît. Puis le pire, c'est que Otto connaissait déjà l'ami de Dolly. Fait que ça rend la situation encore plus absurde. Je sais pas pourquoi ils se connaissent, mais bon. Shapiro, c'est pas un avocat criminaliste, alors il trouve un nouvel avocat pour Dolly qui convainc Otto de sortir de son grenier ici.
Alors, finalement...
Puis ce gars-là, il s'appelle Dominguez, puis c'est tout un avocat. Il a réussi à faire sortir Dolly de prison. Il y a pas de preuves solides. Les fusils sont en état pitoyable. La montre, c'est pas une preuve suffisante pour faire condamner une femme pour meurtre. Fait qu'elle sort de prison.
Wow!
Il n'y a personne qui est au courant de l'histoire d'Otto. Puis une fois libre comme l'air, Dolly entame une relation avec Herman Shapiro, même pas avec Otto.
Shapiro.
Oh baby, when you talk like that. Mais bon, Shapiro, il n'est pas con. Puis Otto lui a raconté toute son histoire avec Dolly. Fait qu'il exige qu'elle cesse sa relation avec lui. Puis en échange, Dolly lui demande d'aider Otto à trouver un emploi. C'est que c'est fucked up.
Yeah!
Shapiro trouve un boulot de porteur de bagages de nuit dans un hôtel, parce qu'il ne veut pas trop qu'il soit vu non plus.
Mm-hmm.
Otto change de nom pour celui de Walter Klein, puis déménage au Canada.
Really?
Où il rencontre une femme et se marie. Puis là, j'étais fucking contente, parce que j'étais comme, OK, là, finalement, il va vivre sa vie, puis il n'est plus avec cette maudite conne-là. Je m'excuse, mais Dolly, là... Hey!
J'espère qu'il ne reste pas encore dans un grenier.
Non. Puis un peu plus tard, Walter Klein auto, là, il retourne à Los Angeles avec sa femme puis refait sa vie. Il aurait tellement dû rester au Canada, là. Il essaie pas de reprendre contact avec son ex-maîtresse Dolly, puis il fait sa petite vie tranquille. Mm-hmm. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on se dit ben, l'histoire de la mort de Fred Oesterreich est vouée à tomber dans l'oubli. Mais non! La patience de l'inspecteur Klein est finalement récompensée, puis en 1930, c'est un Herman Shapiro qui est en maudit qui se présente au commissariat. Cette journée-là, il s'est sérieusement engueulé avec Dolly à propos d'argent, okay, puis ça a dégénéré. Puis elle l'a menacé une fois de trop, puis il décide de tout dire à Klein, parce que lui, là, il sait tout depuis un petit bout, mais... C'est ça. Il est comme, je l'aime, elle est séduisante. Puis cette journée-là, il est en calice, fait qu'il lui il apporte à Klein tout le récit de l'histoire comme Otto lui avait raconté. Puis là, ça déboule vite. Okay. Otto, il est emprisonné en attente de son procès pour le meurtre de Fred Oesterreich. Ils ont trouvé Otto rapidement. T'sais, il est plus au Canada, il est revenu à LA. Fait que c'était pas si compliqué que ça de le retrouver. Puis pendant ses passages en cour, il explique comment la relation entre Dolly et lui était tordue. Mais on est en fin 1800. Ben là, on est rendu en 1930, mais ça a commencé comme fin 1800. Fait que... Ils sont pas conscients de c'est quoi comme grooming, puis...
Non.
Otto raconte comment il attendait impatiemment le moment du retour de Fred pour retourner dans son grenier, à l'abri des demandes incessantes de Dolly. Il explique que lorsqu'il se chicanait, il faisait la grève de la faim, puis qu'elle se mettait en colère contre lui. C'était toujours lui qui flanchait et répondait à ses exigences du sexe, du sexe, du sexe.
8 fois par jour, là!
Lors de sa comparution en cour, il plaide non responsable en raison de ses limitations mentales, puis le jury est pas con, là. Mais ils sont pas non plus trop sévères envers lui. Otto, il est pas reconnu coupable de meurtre, mais d'homicide involontaire. Puis ça fait une grosse différence dans la peine que tu vas purger aux États-Unis.
Oh, hell yeah.
Puis comme le délai de prescription pour le cas est expiré, Otto, maintenant Walter Klein, il sort de la cour comme un homme libre, même s'il a tué quelqu'un.
No shit. Wow!
Pour ce qui est de Dolly, l'étrange... Dolly, l'étrange, c'est comme ça que Michel l'appelle. Là. Un jeune avocat prend son cas en charge. Malgré son jeune âge, il est super compétent, il est déterminé. Le jury n'arrive pas à un verdict unanime, mais la majorité souhaite un acquittement.
Really?
L'accusation contre elle est donc rejetée. Puis elle aussi, en 1936, elle sort de la cour en femme libre. Puis il y a quand même un gars qui est mort, est-ce que...
Fuck oui.
En 1958, le livre « The Attic Lover ».« The Attic Lover », c'est comme le chum dans le grenier, mettons.
Ouais, exact.
En 1958, le livre « The Attic Lover » est publié. On y apprend que Dolly habite depuis plusieurs années dans une dépendance située au-dessus d'un garage. Dans le fond, elle est maintenant dans son grenier à elle.
Oh my God.
En 1961, à l'âge de 81 ans, Dolly Oesterreich épouse un homme avec qui elle est amie depuis les 30 dernières années. Ce gars-là s'appelle Raybert Hedrick. 3 semaines plus tard, elle meurt subitement et tout son héritage revient à son deuxième mari.
No shit.
Étonnamment, on ne sait rien de ce qu'il est advenu d'Otto. Plusieurs pensent qu'avec la dévotion amoureuse qu'on lui connaît, il a vécu une vie heureuse et simple avec Mathilda, la femme qu'il a rencontrée au Canada. La maison des Oesterreich où Fred est décédé est toujours debout au Milwaukee. Elle a été transformée quelque part dans les années 1900 en multiplex contenant plusieurs petits appartements. Fait que c'était ça, mon histoire d'aujourd'hui. Comme de quoi, les anciennes histoires peuvent parfois être aussi intéressantes que les plus récentes dont j'ai l'habitude de raconter. Alors ça, c'est comme une photo de la maison aujourd'hui.
Wow. Incroyable.
Elle l'a caché dans le grenier. Moi, j'en reviens pas.
That's so crazy.
Il était tout le temps là.
C'est tellement fou, Jennifer.
J'ai hâte d'aller à Rivière-du-Loup.
Me too.
Peux-tu dire Rivière-du-Loup?
Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup.
Ah, il y a des loups. Si jamais depuis le début du podcast, vous entendez un petit crépitement derrière moi. C'est ma vibe en ce moment. J'ai mis une petite chandelle qui a une mèche spéciale qui fait crépite.
Jennifer. Jennifer, je t'aime. S'il vous plaît, tout le monde. Puis je vous aime aussi, là.
Oh.
Souscrire. Laissez un commentaire sur nos réseaux sociaux. Dans la groupe privée sur Patreon, ça compte pas. Mais on les lit quand même.
Ça compte. Dans le groupe privé, j'aime ça, avoir des conversations. Mais cette semaine, j'ai pas eu le temps de full d'y aller, mais je vais y aller dans les jours qui suivent.
Mais on veut booster l'algorithme pour trouver d'autres sombreux.
Hey, mais ça a tellement fonctionné, notre dernier message. On a eu full plus de likes sur...
C'est full cool,
en tout cas,
ça.
Sur Spotify.
Ah, merci tout le monde.
Cliquez sur la petite cloche aussi pour avoir toutes les... pour être abonné si vous... Ouais,
ben
ça.
Oui.
Ben, c'est ça. Bye!
Bye!
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.